Bienvenidos a este informativo de Radio
France. Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde. Comme tous les vendredis soirs, nous revenons sur les temps forts de l'actualité de la semaine avec le regard des rédactions du Monde, de RFI. Ce soir, avec, pour la rédaction en espagnol, Lucille Gimbert.
Buenas tardes.
Adriana Moseis de la rédaction brésilienne.
Buenas tardes.
Et puis Emam de la rédaction cambodgienne.
Sosnay Philippe.
Bonsoir à vous tous. Alors hier, Emmanuel Macron et Theresa May ont vanté l'entente cordiale entre la France et le Royaume-Uni lors du sommet franco-britannique. À Sandhurst, a été signé un traité sur le contrôle de l'immigration pour compléter les accords du Touquet de 2004 qui avaient instauré des contrôles d'immigration communs dans les ports des deux pays, c'est-à-dire Calais d'un côté, Douvres de l'autre, sans réussir, cela dit, à juguler l'afflux de migrants à Calais, justement. Quel est le contenu précisément de cet accord, Lucille Gimbert?
Alors, ce traité de Sandhurst ne remet pas en cause les accords du Touquet signés en 2003 par Nicolas Sarkozy et qui ont déplacé, vous le disiez, cette gestion de la frontière commune du côté français. Emmanuel Macron a abandonné cette idée. Ce nouvel accord vient donc compléter le système actuel. Deux annonces principales à retenir, un peu plus de 50 millions d'euros de rallonge de la part du gouvernement britannique pour financer de nouvelles clôtures et des équipements de vidéosurveillance à Calais. Et surtout, la promesse d'accélérer les procédures d'examen de dossiers pour les migrants qui veulent entrer au Royaume-Uni. Au lieu d'une moyenne de 6 mois, Londres promet d'évaluer les demandes des adultes en 1 mois et celles des mineurs en 25 jours.
Et puis sur l'antenne en espagnol de RFI, vous avez cherché à évaluer ces mesures, savoir si elles étaient efficaces pour améliorer la situation à Calais.
Eh bien, pas vraiment. Les 50 millions d'euros s'ajouteront aux 140 que Londres a déjà déboursé depuis 2015 pour tenter d'empêcher les intrusions en vain. En ce qui concerne la réduction des délais pour les demandes d'asile de mineurs, le département du Pas-de-Calais salue une avancée, mais il assure que cela ne résoudra pas le drame humain qui se vit à Calais. Pas très réaliste, estiment pour leur part des représentants d'associations sur place qui attendent de voir. Londres n'a en effet donné aucun chiffre concernant le nombre de mineurs qui pourraient être accueillis dans le cadre du regroupement familial. Le gouvernement britannique, pour le moment, n'accepte des jeunes qu'au compte-gouttes, malgré ses déclarations d'intention. En dépit du démantèlement de la jungle à Calais l'année dernière, en octobre 2016, plusieurs centaines de migrants sont encore présents aux alentours du tunnel et du port pour tenter cette dangereuse traversée.
Alors, les réactions sont nombreuses, bien évidemment, depuis hier. Avec vous, Pizemam, voyons celle des Français concernant pas tant le détail de ce qui vient d'être dit par Lucille, mais plus généralement sur la politique d'Emmanuel Macron en matière d'immigration.
Oui, Philippe, sur l'immigration, les Français sont fermes selon les enquêtes d'opinion faites par l'IFOP. En septembre dernier, 63% des Français pensent qu'on ne peut pas accueillir plus d'immigrés. Mais en même temps, plus de la majorité, 56% des Français, restent quand même très attachés aux valeurs d'accueil. Il est vrai que cette question d'immigration, le président Macron a pour objectif d'apparaître comme menant une politique équilibrée entre fermeté et humanité. D'un côté, la France va davantage expulser les immigrés clandestins et les migrants économiques, et d'un autre côté, la France va faire en sorte pour mieux accueillir les demandeurs d'asile.
Vous disiez un équilibre entre humanité et fermeté, mais est-ce que ça ne va pas changer avec ce nouveau dispositif?
Oui, bien sûr, il y a un risque si le regard des Français change avec le sentiment que la politique menée par le président est trop répressive. Le discours de fermeté lors de son passage à Calais le 7 janvier que le président a tenu envers les associations, les accusant de saboter les efforts de force de l'ordre, est très mal perçu. Non seulement le gouvernement est critiqué par ces mesures trop répressives et peu efficace, mais aussi le président a critiqué par son manque de connaissances sur la réalité du terrain. Et donc, le président Macron pourrait perdre sur les deux tableaux, c'est-à-dire à gauche et à droite, trop répressif pour l'un et pas assez ferme pour l'autre. Certains juristes disent même que la ligne politique sur l'immigration de président Macron est même plus dure que celle de Nicolas Sarkozy.
Voilà donc pour l'opinion des Français sur la politique migratoire de la France. Est-ce qu'au Brésil, Adrien Moïse, eh bien, on s'intéresse à cette crise migratoire en Europe, en général?
Disons que la politique migratoire de Donald Trump aux États-Unis, par sa violence, sa rudesse, la proximité géographique du pays avec le Brésil, retient plus actuellement l'attention des Brésiliens sans pour autant les désintéresser de l'Europe. La presse brésilienne a bien suivi cette semaine les déplacements du président Macron à Calais, puis au Royaume-Uni, pour le sommet avec Theresa May. On va écouter la présentatrice de la chaîne Globo News mardi matin, jour de la visite du président Macron à Calais.
De volta agora com o noticiário internacional. A França promete endurecer o tom com o Reino Unido essa semana por causa da crise dos refugiados.
Que dit-elle en substance, Adriana?
La France va durcir le ton envers le Royaume-Uni à cause de la crise des réfugiés, dit la journaliste. Les Brésiliens se sont réveillés en voyant les images du président Macron discutant avec des migrants africains au centre d'accueil de Croisil dans le Pas-de-Calais. Des images qui montrent bien que le président ne veut pas laisser pourrir la situation en France et souhaiterait vivement que les Anglais prennent leurs responsabilités. Les reportages expliquent que la situation à Calais est moins critique qu'il y a 14 mois avant le démantèlement de la jungle en 2016. Le nombre d'émigrants a été réduit. Des 8 000, hein, les numéros sont gonflés parfois. On a parlé de 10 000 parfois au Brésil. Aujourd'hui, 500 personnes dans la région. Cela dit, les quotidiens au Estado de São Paulo souligne qu'en juillet 2017, suite à l'élection présidentielle en France, Macron avait dit que tous auraient un traitement digne et un hébergement d'urgence et visiblement on n'en prend pas le chemin.
Du reste, le résultat de ce sommet franco-britannique, donc qui a réuni Emmanuel Macron et Theresa May, comment est-ce qu'il est évalué chez vous au Brésil?
La presse brésilienne a remarqué une inversion du rapport des forces entre la France et le Royaume-Uni dans ces dossiers. Les quotidiens au Globe signalent qu'après les menaces, c'est les termes utilisés de Macron, Theresa May a renforcé la coopération avec la France dans le but de mieux négocier les Brexit. Les volets militaires du sommet n'ont pratiquement pas été abordés par la presse brésilienne. Les médias ont surtout retenu la contribution financière des 50 millions d'euros
oui,
des Britanniques.
Ouais,
c'est ça.
Et donc?
Et donc,
faut pas que ça vous coupe dans votre élan.
Et donc, on dit
sur
aussi
sur ce qu'a dit l'hebdomadaire Ferra, par exemple,
ouais, que les nouveaux traités signés par Emmanuel Macron et Theresa May va permettre d'accélérer les traitements des dossiers des migrants qui veulent traverser la Manche. Mais comme a dit notre collègue Lucille, on est dans le flux parce qu'on ne sait pas, on sait absolument pas combien de dossiers vont être traités ni dans quel délai en fait. Même s'ils ont fixé des nouveaux délais.
En tout cas, les rédactions de RFI suivront tout cela avec beaucoup d'intérêt. Vous écoutez Accent du Monde sur Radio France Internationale.
This is Radio France International.
De Paris, RFI,
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Intéressons-nous à des sujets particulièrement traités par les rédactions en langue étrangère de RFI. Tout d'abord, la rédaction en espagnol, Lucille Gimbert, après le Chili, le pape est en ce moment même au Pérou, au moment où nous parlons, plus particulièrement à Puerto Maldonado, dans la forêt amazonienne, pour marquer son attachement à la défense de l'environnement et des peuples indigènes. Lucille, il avait fait de même à Temuco, qui est la capitale de l'Araucanie au Chili, voilà, c'est-à-dire la région des Indiens Mapuche.
Tout est bien prononcé. Oui, il a donné un message, il a exprimé un message de soutien, un message que François avait déjà d'ailleurs porté dans d'autres pays d'Amérique latine, ce soutien aux peuples autochtones. En Bolivie, au Mexique, il avait même demandé pardon pour le sombre rôle de l'Église catholique lors de la conquête espagnole. À Temuco, donc au Chili, le pape a d'ailleurs démarré son homélie avec quelques mots en Mapudungun. Écoutons.
Mari, Mari, Fumetongon, Tanyema.
Mali Mali, ça veut dire bonjour dans la langue des Indiens Mapuche. Il a aussi ajouté Kum Tungun Tanyemun, qui veut dire que la paix soit avec vous. Un appel donc à la paix et au dialogue dans une région marquée par les tensions entre l'État et les Indiens Mapuche. S'ils résistèrent aux Espagnols lors de la conquête, les Indiens Mapuche ont pour beaucoup été exterminés ensuite au 19e siècle par l'État chilien qui s'est emparé de leurs terres. Aujourd'hui, ils ne dominent plus que 5% du territoire qu'ils avaient à l'origine et ces terres sont entre les mains de grands propriétaires. Propriétaires ou d'entreprises forestières qui épuisent les sols avec des plantations de pins notamment. L'Église a aussi récupéré des terrains, d'où aujourd'hui un sentiment critique à l'égard de l'institution catholique. C'est ce que nous a dit José Elwin, spécialiste du conflit Mapuche à l'Observatoire citoyen au Chili.
Il y a un pourcentage important aussi
hasta el día de hoy, de mapuches que son católicos. Los hay también de muchas otras iglesias, pero también hay...
Que dit-il, Lucille?
Alors, il nous explique qu'une partie des mapuches aujourd'hui est catholique. D'aucuns suivent d'autres églises, notamment évangélistes, qui sont en plein essor en Amérique latine, et que aussi, à part ça, les croyances mapuches fondées plus sur la force et les esprits de la nature commencent à reprendre des forces, et puis que beaucoup d'Indiens mapuches reprochent à l'église catholique son rôle historique dans la région.
Des temples et des églises ont été incendiés dans les jours qui ont précédé l'arrivée du pape sur place.
Ouais, pour le moment, il n'y a pas de revendications, mais des tracts en faveur de la restitution des terres aux Mapuches ont été trouvés sur les lieux de certains de ces incendies. À Temuco, le pape François a d'ailleurs condamné cette violence que vit ce territoire. Pour lui, elle dessert la cause même la plus juste, ce sont ses mots. Des groupes Mapuches radicaux sont régulièrement accusés d'attaques incendiaires contre des propriétés privées dans la région. Et puis en face, le gouvernement a choisi depuis longtemps l'option répressive. Il applique aux Indiens Mapuches la très controversée loi antiterroriste qui vient de la dictature de Pinochet.
Alors le pape François, je le disais, est aujourd'hui dans la région amazonienne de Madres de Dios et il sera question également du sort des peuples autochtones et de l'impact de ces mines très souvent illégales hein, et puis la déforestation sur leurs terres ancestrales.
Oui, en effet, François va même remettre d'ailleurs aux représentants des peuples indigènes la traduction dans leur langue de son encyclique Laudato Si sur la défense de l'environnement.
Voilà, le voyage de pape en Amérique du Sud, suivi bien évidemment de très près par la rédaction en espagnol de RFI. C'était Lucille Gimbert. Une décision importante est attendue pour la semaine prochaine au Brésil, à savoir le jugement en appel de l'ancien président Lula. Tout d'abord, Adriana Moïses, rappelez-nous les enjeux de ce procès.
C'est l'événement politique de ces débuts d'année au Brésil. En juillet dernier, Lula a été condamné à 9 ans et 6 mois de prison pour les crimes de corruption passive et blanchiment d'argent par les juges anticorruption Sergio Moro. L'ex-président est accusé d'avoir bénéficié de largesse d'un groupe de BTP, la société OAS, qui lui aurait offert un triplex en bord de mer sur le littoral de São Paulo en échange de faveurs politiques. Telles que des marchés publics de la compagnie pétrolière Petrobras.
Alors ça, c'est l'accusation, sachant que Lula, lui, a toujours clamé son innocence dans cette affaire.
Toujours. Il dit que les enquêtes de la police et du parquet sont truffées des mensonges, ce sont ses mots. En effet, ce qui peut se passer, c'est qu'une condamnation, un appel, risque de saper ses chances de se présenter aux élections présidentielles de 2018, pour lesquelles il est favori, étant donné que la loi brésilienne interdit à toute personne condamnée en deuxième instance de se présenter. Et ce qui frappe à la veille de ces jugements, c'est l'ambiance de spectacle au Brésil. Le président du tribunal de Porto Alegre est allé jusqu'à Brasilia pour demander la venue des forces armées afin de protéger les sièges du tribunal et l'intégrité physique des juges. Ce que le président Temer a refusé, estimant que la demande était exagérée. La présidente du Parti des travailleurs a été très critiquée pour avoir dit qu'il faudrait tuer des gens pour mettre Lula en prison. Donc,
c'est tendu.
C'est très, très tendu en attente de ces jugements qui va se passer donc mercredi prochain. Je vous propose d'écouter le préfet de la région de Porto Alegre, César Schirmer.
Nous sommes pedindo au ministère de la Justice que nous libère la Força Nacional qui est déjà ici au Rio Grande do Sul.
Donc, ça, c'est le préfet de l'autorité publique qui s'exprime sur les mesures de sécurité.
Oui, oui. Le préfet, il dit qu'il a demandé un renforcement des 150 agents de sécurité au ministère de la Justice à titre de précaution, car il trouve tout à fait normal que les gens manifestent devant les tribunaux tant que les divergences d'avis ne débouchent pas sur des violences.
Est-ce que le cas échéant, Lula peut être incarcéré, mis en prison à l'issue de la séance et donc juste après le verdict?
Non. Pas selon les informations du tribunal, même si la condamnation est confirmée, la défense pourra présenter des recours et Lula attendre leur jugement en liberté, ce qui crée les suspens sur la décision de mercredi qui va être prise d'ailleurs par 3 juges. C'est qu'il y a plusieurs scénarios juridiques possibles. Lula pourra aussi bien être relaxé des accusations ou être autorisé à faire campagne et redevenir chef d'État l'année prochaine.
Et puis, il y a des manifestations de soutien à Lula qui sont prévues un peu partout dans le monde. Hein.
Oui, on a recensé au moins dans 20 villes en Europe et aux États-Unis où il y aura d'ici à mercredi des manifestations de soutien. À Paris, par exemple, il y aura un flash mob dimanche à 16h devant la Tour Eiffel pour dénoncer un procès sous influence politique contre Lula et les partis des travailleurs. Par contre, les mouvements qui défendent la condamnation n'ont pas prévu de manifester, au moins jusqu'à maintenant.
Donc, il y a un vrai suspense. La pièce de théâtre continue. Certainement de nouveaux rebondissements. Et là encore, la rédaction brésilienne de RFI avec vous, Adria Moisés, suit cela de très près pour RFI. Le Cambodge à présent. Au Cambodge, Khem Sanka, le chef de l'opposition, est en prison depuis le mois de septembre. On a eu l'occasion d'en parler sur cette antenne. Le 16 novembre dernier, le pouvoir de Phnom Penh a dissous l'opposition, le parti d'opposition, le parti du sauvetage national. Une centaine de politiciens ont été condamnés à ne pas exercer leurs activités pendant 5 ans. Voilà la situation politique au Cambodge. Aujourd'hui, Pizemam, l'heure est encore plus sombre pour l'opposition, car elle est maintenant menacée de division. C'est bien ça?
Oui, Philippe, le 12 janvier récemment, la semaine dernière, M. Samrinsi, ancien chef de l'opposition, a annoncé depuis New York qu'il crée un mouvement nommant le Mouvement pour le sauvetage national pour remplacer le Parti de sauvetage national dissolu le 16 novembre dernier. Cette nouvelle a sonné comme un sabotage aux efforts de certains politiciens qui combattent pour que le pouvoir de Phnom Penh annule cette dissolution. 50 personnalités importantes de l'opposition ont boycotté ce mouvement.
Et depuis quelques jours, sur les réseaux sociaux, bien évidemment, ils sont nombreux, d'un côté comme de l'autre, pour se lancer des accusations, régler des comptes, se lancer des invectives.
Oui, ce n'est pas nouveau, mais ces derniers rebondissements ont sans doute fait réveiller la grosse fracture au sein de l'opposition cambodgienne. La fracture existe bel et bien entre les deux camps, le camp de Samrinsi et le camp de Khem Sokha, qui est actuellement en prison. Invitée sur notre antenne ce matin, Mme Khem Monowetia, fille de M. Khem Sokha et figure montante de l'opposition, a tout fait pour éviter de nous répondre sur cette question. Nous allons l'écouter un instant.
Elle parle malgré tout, mais pour dire quoi?
Alors, elle a répondu simplement qu'elle n'a rien à dire là-dessus. Elle tient à préciser simplement que c'est elle et certains responsables de l'opposition souhaitent préserver à tout prix le parti de sauvetage national dont le chef est son père. Son combat, il s'agit d'annuler la dissolution prononcée par la Cour suprême du Cambodge et obtenir la libération de M. Khem Sokha. Créer un autre mouvement politique revient à dire que l'opposition elle-même accepte sa propre dissolution. C'est là qu'il existe deux lignes politiques différentes. Combattre pour récupérer le parti de sauvetage national ou combattre avec une nouvelle formation politique. Mais cette crise, Philippe, reflète surtout un problème de coordination et la capacité à trouver un consensus au sein de l'opposition, aujourd'hui malgré tout très très éprouvé.
Ça veut dire que dans tous les cas, l'homme fort du Cambodge, qui est aujourd'hui Hun Sen, ça fait ses affaires pour
bien
les prochaines élections.
Bien sûr, parce que maintenant, il n'y a plus l'opposition et donc il ne reste que le parti de M. Hun Sen. Il a assuré ce matin même qu'il organisera dans tous les cas l'élection législative comme prévu en juillet prochain, comme prévu, peu importe les sanctions ou les mises en garde de la part de la communauté internationale.
Donc des élections au mois de juillet avec le parti de Hun Sen, ça c'est acquis. Est-ce qu'il y aura la possibilité pour les partis de l'opposition, on l'a bien vu, hein, de se présenter également?
Pour le moment, il faut trouver un moyen pour former une nouvelle formation politique. Mais en tout cas, l'ancien parti, l'opposition, a été bel et bien dissous par le
pouvoir. Ça veut dire que pour cette élection du mois de juillet, il pourrait n'y avoir qu'un parti qui présente des candidats.
Il y a plusieurs d'autres partis, mais ce sont les petits partis, souvent créés par le pouvoir même pour brouiller les pistes.
Merci Pizemam de la rédaction cambodgienne. C'était Accent du Monde. Dans quelques instants, l'essentiel de l'actualité sur Radio France Internationale.